Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent. Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque de rubriques. Les mosaïques des vies, votre émission en direct, le premier jeudi du mois à 11h et rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mots, les mosaïques.
Les mots,
les mosaïques,
les mosaïques des vies.
Bonjour à tous. Je reçois ce matin en direct dans l'émission Étienne Jacoubet, sculpteur. Étienne Jacoubet, bonjour.
Bonjour Evie.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation.
Merci de m'avoir invité.
Alors, Étienne, je vais vous appeler par votre prénom. Donc, Étienne, je vais lire un petit extrait écrit d'une chronique écrite par Emmanuel Daïdé, chronique d'art très connue dans le monde des arts, justement, et cette chronique a été publiée dans la revue Art Absolument de janvier 2018. Pour un jardin en hiver, Étienne Jacoubet, maître forgeron d'une sculpture abstraite de la ligne et du poids, développe des créations rhizomiques qui, à l'instar de la French théorie de Deleuze et Guattari, germent dans toutes les directions, telles des lianes ou des monstres, au milieu des bassins, à l'ombre des arbres ou dans le voisinage des narcisses jaunes et des moutons blancs qui paissent entre ces structures serpentines. Ce sculpteur de fer et de feu insuffle à ces lignes torsadées, contournées, mouvantes et insaisissables, la sève de plantes grimpantes qui, comme des tiges souterraines qui émettent des tiges aériennes au printemps, semblent vouloir atteindre l'ailleurs dans un sursaut de vitalité et d'escroissance. Je trouve, Étienne, que ça vous correspond assez.
C'est gentil, oui.
C'est vrai, c'est très, très mais joliment dit. Et effectivement, cette chronique a été écrite par rapport à votre exposition.
Tout à fait, oui, au Potager des Princes à Chantilly.
Voilà, cette exposition se nomme Jardin d'hiver.
Oui.
Voilà, oui. Nous reviendrons après pour parler plus longuement de l'exposition.
D'accord.
Et j'ai déjà d'ores et déjà envie de vous poser une question, Étienne. Quel a été votre cheminement pour devenir sculpteur ?
Alors, c'est une question qui est précise et large à la fois. Le cheminement, évidemment, c'est très subtil, très diffus, très difficile à localiser hein, de manière très précise. On peut dire que c'est tout un regroupement d'évolutions. Je pense que j'avais un rapport déjà très physique aux éléments, à la matière, depuis toujours. Et ensuite, ce sont des rencontres. Ça peut être des rencontres de gens, mais des rencontres d'œuvres aussi, hein, des choses qui m'ont bouleversé et qui m'ont amené tout doucement à travailler sur les trois dimensions. Voilà, vous dire vraiment à quel âge ça se situe, je vous dis, c'est un petit peu ambigu. Je dirais que vraiment les premières sculptures qui peuvent être dignes de ce nom, c'est à l'âge de entre 20 et 21 ans, hein, et où là ça s'est formalisé sous la forme de ce qu'on peut appeler oui, une sculpture. Hein. Avant, j'avais une idée
plus vague.
Hein, et puis on en parlera aussi je pense par rapport à la formation que j'ai eue, il a fallu que je rencontre des gens pour savoir nommer les choses. Voilà.
Oui, mais je pense tout de même qu'à l'origine vous aviez forcément une fibre artistique, vous étiez déjà attiré par l'art en général.
Tout à fait, oui, enfin, sous la forme musicale aussi, comment dire, si vous voulez, je connaissais très bien le matériau, un des matériaux que j'utilise aujourd'hui.
C'est-à-dire le métal.
L'acier.
Hein,
mais je ne savais pas, si vous voulez, je voulais pousser plus loin les choses. C'est-à-dire, je me disais comment pouvoir emmener la matière plus loin que de la façon dont je la travaille actuellement. Mais encore une fois, je n'ai pas du milieu dit artistique, Hein, je n'ai pas fait d'école d'art. Donc voilà, c'est après, c'est des rencontres, c'est la première vraiment œuvre que j'ai découverte, c'était l'œuvre de Chagall, hein, donc un peintre, très coloriste. Voilà. Et ensuite, ça a été Anthony Caro, qui était un sculpteur anglais. Et puis voilà, des œuvres comme ça qui sont venues se greffer petit à petit. Hein, et puis...
Mais vous étiez quand même dans le milieu du travail du métal.
Tout à fait. Hein. Moi, j'ai suivi un apprentissage de ce qu'on appelle de forgeron, mais très particulier. C'est ce qu'on appelle la forge libre. Donc c'est un travail sur presse et marteau pilon. Hein, donc c'est plutôt dirigé par la suite vers l'industrie. Et parallèlement à ça, j'ai tout de suite entamé aussi une formation de forge, je dirais de forge d'outils, de maréchalerie, de choses comme ça, pour essayer d'explorer le maximum de façons de travailler l'acier. Hein, et puis j'aimais beaucoup aussi la notion de voyage. Donc j'ai voyagé d'atelier en atelier, à l'étranger, en France, à la fois pour rencontrer des gens. J'allais beaucoup voir des gens plus âgés que moi, pour qu'ils me parlent de leur parcours, de leur vie, de leur façon d'apprendre, voilà.
Et vous aviez ce lien presque affectif aussi avec la matière, le métal.
Tout à fait, oui. Alors le métal, le bois, j'ai un de mes grands-pères qui était ébéniste, donc j'ai été enfant... J'étais fasciné en rentrant dans les ateliers de sentir les odeurs de colle, de vernis, les essences des bois. On jouait avec mes frères dans les planches, puisque les planches étaient stockées dans une espèce de hangar. Et puis l'autre grand-père était mécanicien métallier, donc pareil, et mon père métallier. Donc je jouais aussi dans l'autre atelier. J'en parle parce que c'est vraiment important. Parce que l'atelier de mon père, j'y suis maintenant pour ma sculpture. Donc, on peut presque dire que je suis né dedans, quoi. Enfant, j'ai toujours navigué à l'intérieur.
D'ailleurs, ouais. Magnifique atelier.
Oui.
J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques temps. J'ai été en admiration devant votre atelier. La grandeur, bien sûr, il y a beaucoup d'espace. Donc, en tant que sculpteur, pour vous, c'est l'idéal, bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Mais aussi, c'est un lieu magique. Il est imprégné d'une atmosphère, je trouve, d'une âme, parce qu'il a vécu cet atelier.
C'est vrai. C'est quelque chose qui m'a toujours... le mot impressionné, c'est pas ça. C'est de voir que, déjà les outils, la manière dont ils sont positionnés, l'outil lui-même qui représente une pensée humaine qui s'est affinée sur le temps, donc la forme de l'outil, il y a vraiment une pensée qui est derrière, et tout ça, ça crée une atmosphère. Alors en plus, cet atelier, il est entouré de canaux, hein, qui amènent au château de Chantilly, avec des arbres qui, comme ils sont au bord de l'eau, ont des branches qui pleuvent un peu. Donc tout ça, ça crée des formes, surtout la nuit, quand il y a les formes, et puis il y a aussi, on entend les grenouilles. Enfin bon, c'est quand même quelque chose, comme vous dites, assez particulier. Hein, moi, je le vis comme un privilège, parce que ça l'est, quoi.
Et à propos de votre atelier, on peut vous rendre visite?
Bien sûr, bien entendu, oui. Hein, avec plaisir. C'est toujours... Un échange, hein, de pouvoir communiquer avec les gens.
Alors, Étienne, où trouvez-vous votre inspiration?
Alors, toujours pareil, hein, ça sont des choses qui sont... c'est une grande multitude. L'inspiration, je pense qu'elle vient de la vie elle-même. Hein, c'est-à-dire que elle peut venir du flash d'information qu'on vient d'entendre, des rencontres... de cette émission aujourd'hui, qui est un monde que je ne connais pas. Ça peut venir d'œuvres que j'ai pu rencontrer, de gens qui m'ont marqué, d'expositions comme celle du potager, par exemple, qui sont... J'ai 54 ans cette année, donc c'est un âge où on regarde un petit peu ce qu'on a pu parcourir. Et là, c'est un lieu absolument extraordinaire, hein, qui a été créé par la famille Bien-Aimée, avec plusieurs jardins qui se croisent et des animaux qui sont en semi-liberté.
Oui, c'est un lieu remarquable.
Voilà, tout à fait. Et avec une pensée vraiment derrière, une pensée artistique. Hein, vraiment, ça a été conçu de manière absolument incroyable. Donc, introduire des sculptures à l'intérieur d'un univers comme celui-ci, c'est vraiment un défi.
Ça n'a pas dû être facile de faire le choix d'une sculpture plutôt que d'une autre.
Tout à fait. Et c'est pour ça, on en revient à ce que vous dites, l'inspiration, alors, c'est un mot qui peut me faire peur, pas de peur, c'est pas le mot, mais c'est comme création. C'est des choses, des fois, je trouve, qui enferment un peu. Création, ça me paraît presque surdimensionné, si vous voulez. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui... c'est un métier, au même titre qu'un autre métier. Et donc, y a un cheminement de travail, et par le travail, comme un musicien. Je veux dire, un musicien, il travaille son instrument, il joue beaucoup, et à un moment donné, il y a des choses qui se développent, qui apparaissent. Là, ça peut vous échapper, ou arriver à le retranscrire. Dans mon cas, c'est à travers la matière. Donc voilà, l'inspiration, elle vient, c'est très diffus. Hein,
Et j'en reviens au choix crucial, en tant qu'artiste, de sélectionner une œuvre qui va être exposée donc, dans ce lieu, enfin qui est exposée dans ce lieu du jardin...
du Potager des Princes.
Voilà, ouais, du Potager des Princes. Et il y a à peu près combien de vos sculptures qu'on peut aller contempler ?
Alors là, j'ai fait un choix de 30 sculptures. C'est un choix qui s'est presque imposé, si vous voulez. C'est à un moment donné... Alors, j'avais carte blanche. Hein, la rencontre avec Yves Bien-Aimé, c'était absolument extraordinaire. Vous imaginez un homme de 82 ans. J'arrive pour visiter le... je vous dis ça parce que c'est très important dans le choix des pièces après. J'arrive pour visiter, il fait beau. Oui. On commence la visite et d'un seul coup, un orage arrive... Et c'est la pluie torrentielle. Et Yves Bien-Aimé continue la visite.
Oui.
Donc, il y a une espèce de paradoxe d'un seul coup, une situation étrange, si vous voulez. On est là, on est sous la pluie, il fait chaud, mais en même temps, on est trempé. Et il continue à parler, il est complètement dans son idée. Et oui. Moi, ça m'a porté, si vous voulez. C'est-à-dire que de voir cet homme-là, comme ça, espèce de, comme un enfant, ça m'a apporté une force. Et du coup, le choix des sculptures, c'est
Et c'est avéré plus facile, plus naturel à faire.
Plus naturel, parce que... Alors, je voulais que ce soit quelque chose, encore une fois, qui monte un peu l'étendue sur 30 années de sculpture. Donc, j'ai pris des pièces qui ont à peu près 25 ans, d'âge, et puis d'autres beaucoup plus récentes, et je les ai un peu scindées. Hein. Il y a ce qu'on appelle le parc à moutons, où il y a des moutons. J'ai introduit des sculptures qui sont les plus anciennes et qui seraient plutôt de l'ordre du sanctuaire, des choses qui sont vraiment architecturales et plus stables, hein. Et des autres beaucoup plus linéaires, qui sont les pièces plus récentes. Et là, je les ai mis dans ce qu'on appelle la prairie, où là, on peut cheminer au milieu. Alors que les autres sont coupés par une barrière, avec des animaux qui...
Oui, il a fallu aussi compter avec les animaux.
Tout à fait.
Ne pas non plus les déranger avec...
Exactement.
Bien sûr.
Et ça, ça faisait partie du défi. C'est-à-dire, je me suis dit, il ne s'agit pas d'amener Jacobé en plein milieu du monde de Yves Bien-Aimé. Il faut s'intégrer à son esprit sans dénaturer le lieu et respecter les animaux, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux.
Bien sûr.
Et voilà, ça c'était... Et bon, j'étais très agréablement surpris parce que je me suis aperçu en posant, comme il m'a laissé carte blanche à la fois au niveau du temps d'installation et du choix, j'ai pu installer les choses. Ça c'est très important pour un sculpteur. J'ai pu installer les choses tout doucement, sur plusieurs semaines, voir comment les animaux réagissaient, et disposer les choses petit à petit.
C'est une chance, en effet. Oui. Parce que parfois, ouais. beaucoup d'artistes exposant dans des galeries sont ouais. limités par des dates.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Et vous arrive-t-il de reprendre une œuvre des années après sa création ?
Oui, on peut ouais. dire que je... sans arrêt. Hein. C'est d'ailleurs que j'ai vraiment une démarche de... je dirais qu'il pourrait presque s'apparenter à l'archéologie... C'est vraiment une démarche de recherche, de tout le temps avancer un peu plus loin, de creuser. Et du coup, il y a des pièces, si vous voulez, on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a une pièce qui apparaît, mais vous n'êtes pas encore prêt à la recevoir. Donc, vous n'êtes pas capable de voir si elle fonctionne vraiment. Donc, il y a des choses que je considère non abouties, que je vais reprendre un an après, une semaine après, 2 mois après, 10 ans après, parce que d'un seul coup, je comprends son fonctionnement. Hein, alors, soit au niveau du sens dans lequel elle va disposer, soit apporter des choses, soit en enlever. L'acier permet ça, hein, ce que ne permettrait pas la pierre, si vous voulez, ou plus difficilement, hein, de rabouter des choses, c'est plus compliqué. Voilà.
Et y a-t-il aussi, du coup, une œuvre sur laquelle, une fois qu'elle est terminée, vous avez la certitude inébranlable que vous n'y reviendrez jamais ? Est-ce que ça a pu arriver ?
Alors, certitude, ce n'est pas un mot qui correspond à ma démarche. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des pièces que je veux protéger. C'est-à-dire, je me connais, je sais que j'ai cette façon de recouper les choses ou de les reprendre. Et du coup, quand je vois qu'une pièce, il y a des pièces que je mets dans des endroits où je suis sûr que je les oublie un petit peu, et du coup, elles vont pas être recoupées parce qu'elles sont vraiment des pièces charnières.
Alors nous allons faire une pause musicale, et ce choix, Étienne, de la musique que nous allons entendre, c'est vous qui me l'aviez proposé. Il s'agit de 2 artistes, Joël Léandre et Pascal Contet. Nous les écoutons. Thank you. Eh bien, nous sommes donc de retour dans l'émission Les Mosaïques des Vies en direct, où je reçois Étienne Jacobet, sculpteur. Donc son parcours, son œuvre est passionnante. Vous venez d'entendre deux artistes qui jouaient en fait en totale improvisation. Il s'agit donc de Joël Léandre et Pascal Contet. Donc Étienne, vous pouvez nous en dire plus sur ces deux artistes ?
Oui, tout à fait. Alors, Joël Léandre, qui est une contrebassiste très connue dans le monde du jazz, et Pascal Contet, un accordéoniste dans l'improvisation, sont des musiciens. La première fois que j'ai entendu Pascal Contet, c'était au musée Tavet à Pontoise, qui est un très beau petit musée où on peut découvrir l'œuvre d'Otto Freundlich, hein, qui était un peintre absolument extraordinaire, qui mérite d'être connu. Et à l'époque, Pascal Contet improvisait autour de l'histoire de Nicolas de Staël, hein, qui était sa vie lue. Et à la sortie, j'ai été le voir et il m'a proposé, enfin j'ai vu qu'il vendait plusieurs de ses musiques et j'ai découvert son travail, voilà, et que j'ai suivi un peu plus avant. Et j'ai choisi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que leur manière à tous les deux de communiquer avec Joël Léandre là, à travers la musique, en cherchant le son, la manière dont Joël Léandre apporte sa voix en jouant la contrebasse, ça correspond tellement à la manière dont j'explore l'espace avec mes lignes. Enfin, moi, je me retrouve complètement dans leur démarche. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est réciproque, ils ne connaissent pas mon travail, mais voilà, c'est vraiment une musique qui correspond exactement à ce que je cherche en sculpture.
Et il faut rappeler que ces deux artistes, à chaque fois, se produisent en public et en totale improvisation.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
C'est important de le signaler. Et nous en revenons à ce fameux potager des princes, où a lieu votre exposition en ce moment jusqu'au 31 mai. Face d'ailleurs à son succès, elle a été prolongée jusqu'au 31 mai. Et il y a également dans ce lieu remarquable quelque chose de tout à fait à la fois insolite et merveilleux. C'est un théâtre en plein air.
Oui.
Donc au cœur du potager des princes se situe donc le théâtre de la Faisanderie. Alors, j'ai vu sur Internet les photos, je ne suis pas allée, je l'avoue, mais j'ai envie d'aller voir une représentation, ça a l'air superbe. Vous avez donc ce théâtre en plein air, dont ils ont fait une toiture en pagode, qui est magnifique. Il y a du chauffage apparemment, oui. Donc on peut y aller même l'hiver. Et ce théâtre, je vous laisse en parler.
Oui, alors c'est vraiment l'une des trois filles de Yves et Annabelle Bien-Aimée, qui s'appelle Virginie, qui était la plus jeune, et comédienne, hein, et metteur en scène. Et elle fait un festival de théâtre qui se trouve de juillet à fin septembre, et c'est vraiment quelque chose d'unique. Hein, je le dis vraiment, c'est le choix des pièces déjà est absolument extraordinaire, mais le fait de jouer comme ça avec les animaux, parce qu'en fait, il n'y a pas de flanc sur la scène, ni de fond. Ça veut dire que quand vous regardez le théâtre se dérouler, vous avez les animaux qui passent et qui peuvent même arriver à passer des fois sur le plancher de la scène lui-même. Il y avait par exemple François d'Assise cette année, et le comédien a su tirer parti d'un pan qui... Enfin, une espèce d'émulation, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est
en effet, et en arrière-plan, cet étang, avec des espaces de verdure arborés savamment, qui évoquent même un jardin japonais.
Oui,
c'est sublime. Donc, vous pouvez, on conseille à nos auditeurs de se rendre vraiment dans ce potager des princes.
Tout à fait.
Il y a effectivement ce théâtre, il y a une guinguette.
Oui.
Voilà. Ouais. Et il y a ces animaux, et il y a effectivement votre exposition, vos œuvres, parsemées au fil de la promenade, et c'est un enchantement.
Merci.
Je voulais vous demander, Étienne, est-ce que vous vivez de votre art ?
Alors, ça c'est une question qui est très intéressante aussi. Je dirais même qu'elle est fondamentale. Et là, je parle aux plus jeunes, des jeunes qui peuvent se poser la question des fois, comment s'orienter ou est-ce que je vais arriver à en vivre, qu'est-ce que ça veut dire arriver à en vivre. Hein, on pourrait même comparer à combien de jeunes paysans qui veulent faire leur métier de paysan et qui ne peuvent, pour qui ça n'est pas rentable, qui sont obligés de faire deux métiers à la fois. Ils y arrivent. Hein. Donc, moi, il n'y a pas de vérité là-dessus. Moi, j'ai deux métiers j'ai pas un métier alimentaire et un autre où je serais sur mon petit nuage. Pas du tout. Ce sont deux métiers qui sont vraiment qui se soutiennent l'un l'autre. Je m'occupe d'une entreprise de métallerie que j'ai repris il y a quelques années. Ça m'offre une liberté de fonctionnement dans ma sculpture. Ça m'offre aussi un échange qui me permet de rester toujours dans la réalité. Pour moi, c'est une nécessité. Hein. J'ai eu une profonde admiration, tout en étant agnostique, pour ce qu'on a appelé à un moment donné les prêtres ouvriers. C'est quelque chose qui me fascinait, cette démarche de personnes comme ça qui rentrent dans le monde ouvrier. Et dans la démarche de ma sculpture, ça fait partie fondamentalement de mon parcours.
Vous en avez besoin, vous vous nourrissez au travers de votre travail professionnel, oui. Vous vous nourrissez de ça, vous en avez besoin, et peut-être même, ça peut être une source d'inspiration.
Ça l'est, complètement. Mmh. Hein, ça l'est. D'ailleurs, j'aime beaucoup lire Simone Weil, hein, cette jeune philosophe décédée en 43, il me semble, qui a beaucoup exploré la condition ouvrière. Il y a Sainte Dubreuil aussi qui a beaucoup de choses passionnantes là-dessus. Et puis on pourra en citer aussi beaucoup d'autres. Quoi.
Très bien. Alors nous rappelons, votre exposition qui se nomme « Un jardin en hiver » est actuellement au Potager des Princes, au parc de la Faisanderie, 17 rue de la Faisanderie à Chantilly. Elle est prolongée jusqu'au 31 mai 2019, également accessible pendant tous les jours, pendant les vacances scolaires, du 9 au 24 février. Voilà. Et les coordonnées sont, je l'ai dit, je crois, 17 rue de la Faisanderie à Chantilly. Le téléphone 03 44 57 39 66. Il y a également un site internet du jardin en hiver, www.potagerdesprinces.com. Et vous-même, Étienne, vos coordonnées, vous avez aussi un site internet, un Facebook?
Oui, tout à fait. Vous regardez Étienne Jacobé sculpteur et vous avez tout de suite.
Voilà. Et je vous invite vivement à voir cette exposition qui est vraiment... j'ai vu les œuvres exposées dans votre atelier et je trouve ça personnellement magnifique. Mais c'est personnel. Ah. Voilà, Étienne Jacobé, je vous laisse le mot de la fin.
Ben, le mot de la fin, je dirais que ça serait vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer comme ça. Et puis, c'est une belle découverte pour moi de venir parmi vous. Et voilà, je crois que c'est un mot de la fin qui convient bien.
Merci d'être venu. Au revoir.
Au revoir.
C'était les mosaïques des vies. Mots croisés, mots échangés. Mots composés rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques.
Les mots, les mosaïques, les mosaïques d'Evie.